VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. À La Haye, la CPI, la Cour pénale internationale, doit rendre ce mercredi sa décision sur la demande de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo d'être libéré pour le reste de son procès pour crimes contre l'humanité lors de violences post-électorales en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Premier ex-chef d'État remis à la CPI, Laurent Gbagbo avait fait appel en mars de la décision de la Cour de le maintenir en détention à La Haye pendant toute la durée du procès. L'ex-président, âgé aujourd'hui de 72 ans, et Charles Blé Goudé, ancien chef du mouvement des jeunes patriotes fidèles à Laurent Gbagbo, sont accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité. Meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Les deux hommes ont plaidé non coupables. En RDC, audience du procès de l'opposant Moïse Katumbi aujourd'hui à Lubumbashi dans le sud-est du pays. Il s'agit d'un appel au procès pour lequel l'opposant congolais qui reçoit officiellement des soins à l'étranger a été condamné à 3 ans de prison, Eddie Sango.
Maître Jean-Joseph Mukendi, l'avocat de Moïse Katumbi, a déclaré à VOA Afrique que toutes les preuves démontrant que son client a été injustement condamné et pour des raisons politiques seront à nouveau présentées lors de ses procès en appel. Ces preuves sont à la disposition de tout le monde. Plus d'une personne ont témoigné. Le propriétaire de l'immeuble est connu. Il s'en réclame. C'est le frère de Katumbi qui a un certificat d'enregistrement valide de plus de 30 ans, donc inattaquable, a indiqué l'avocat. Moïse Katumbi a été condamné pour spoliation du meuble par contumace à 3 ans de prison en mai 2016, dans un procès dont le plaignant était un sujet grec. Une condamnation prononcée alors que M. Moïse Katumbi venait de quitter le pays pour des raisons de soins de santé à l'étranger sur autorisation du procureur général de la République. L'opposant était sous enquête, accusé de recrutement des mercenaires après avoir déclaré sa candidature pour la présidentielle. Récemment, le procureur de la République a révoqué l'autorisation accordée à Katumbi pour des soins à l'étranger au motif qu'il aurait violé la consigne de garder les silences qui lui avait été notifiée.
RDC toujours, un groupe d'experts de l'ONU dont 2 membres ont été tués alors qu'ils enquêtaient sur des forces communes au Kasaï, région du centre du pays, n'a pas exclu l'implication de membres de la sécurité d'État dans le meurtre de leurs collègues. D'après l'AFP, qui cite le rapport remis au Conseil de sécurité de l'ONU en juin, les premiers éléments ne permettent pas encore au groupe de désigner les responsables des meurtres. Mais le rapport affirme que le crime était bien un guet-apens prémédité. RCA, les violences entre factions armées centrafricaines pourraient replonger le pays dans une crise humanitaire à grande échelle. C'est ce qu'ont déclaré mardi l'Agence américaine pour le développement international et plusieurs autres organisations. Yacouba Ouedraogo.
Une montée subite des combats entre milices dans plusieurs points chauds a déraciné plus de 100 000 personnes depuis avril. C'est la pire crise de déplacement après l'avènement du conflit en 2014, préviennent des groupes d'aide, notamment le Conseil norvégien pour les réfugiés. Plus d'un million de personnes sont déplacées et au moins 2,2 millions ont besoin d'aide en RCA, selon l'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Le plan d'intervention humanitaire dont le pays a bénéficié en 2017 a mobilisé 118 millions de dollars sur les 497 millions nécessaires selon le service du suivi financier de l'ONU. 13 des 14 groupes armés centrafricains ainsi que des représentants du gouvernement ont signé un accord de paix le mois dernier, mais dès le lendemain, 100 personnes ont été tuées à Bria lors des affrontements entre factions. Depuis lors, les combats se poursuivent et se sont intensifiés dans les villes comme Bangassou et Zemio. Les enfants sont de plus en plus ciblés par les violences, victimes de meurtres, d'enlèvements, de viols et de recrutements dans les groupes armés.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, les agences des Nations Unies et 16 autres organisations ont lancé mardi à Brazzaville un appel pour réunir des fonds estimés à plus de 23 millions de dollars afin de venir en aide à des milliers de déplacés dans la région du Poul, proche de la capitale de Brazzaville. Les détails avec notre correspondant sur place, Nguelan Goussou.
L'aide recherchée par les agences des Nations Unies va directement toucher 138 000 personnes aujourd'hui sans nourriture ni médicaments. Ces sinistrés du Poul connaissent une grave crise humanitaire à telle enseigne que 17% des enfants de moins de 5 ans sont frappés par la malnutrition aiguë. Docteur Alex Nzabana Waibika, membre de la Fondation Ibina, qui s'occupe de ces quelques indigents qui se sont installés à Brazzaville.
Ils sont très malnutris, ils sont malades. C'est difficile à décrire parce que il y a déjà eu certaines personnes qui sont décédées parce que non seulement il n'y a pas l'assistance en nourriture, mais non plus pour les soins médicaux. Nous avons pu donner de la nourriture, du sac de riz, du sucre, du lait, ce qu'on a pu donner, mais à moindre échelle parce que, comme tout un chacun le sait au Congo, nous n'avons pas de subvention de l'État. Ils sont partis dans les familles, à Madibou, à Ngangalingolo, et à Makelekele, à Mfilou. On a essayé d'apporter ce que nous pouvions apporter. Et donc, il y a des gens qui sont déjà morts.
Les agences des Nations Unies à Brazzaville comptent d'abord sur l'apport du gouvernement avant d'espérer collecter des fonds auprès des bailleurs internationaux. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Brazzaville, Anthony Kwaku Oemeng, garde espoir.
Je dois le dire, le pour de partenaires connus. Premièrement, il s'agit du gouvernement. C'est une question des Congolais. Le gouvernement est attentif. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Le 138 000 identifiés dans l'appel, c'est des personnes à qui nous avons accès. Mais oui, il y a certaines zones d'insécurité où nous n'avons pas jusqu'à présent eu accès et nous sommes toujours en discussion avec le gouvernement.
Les organisations de la société civile continuent d'appeler à l'ouverture d'accès dans le pool afin qu'elle évalue elle-même cette situation humanitaire. Franck Nzila, du mouvement citoyen Le Ras-le-Bol.
Au mouvement Ras-le-Bol, nous avons mené une campagne pour mettre, je dirais, en exergue cette situation difficile. Si le gouvernement congolais dit qu'ils n'ont plus les moyens, entre guillemets, pour assister les populations du pool, on demande au gouvernement congolais d'arrêter d'acheter des armes, d'arrêter d'entretenir la guerre pour que cet argent qui existe soit, je dirais, orienté vers des choses positives et bonnes pour le Congo.
Depuis avril 2016, les forces armées pourchassent le pasteur Ntumi et ses hommes, les ninjas, dans le pool. Les populations prises dans l'étau se réfugient dans les forêts où elles sont sans assistance. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, un député de l'ANC au pouvoir et l'ancien ministre des Finances, Pravin Gordhan, se sont joints aux nombreux détracteurs du président Jacob Zuma qui réclament sa démission. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le député Makosi Kosa a choisi le jour de l'anniversaire de Nelson Mandela pour dénoncer Zuma le traitant d'insulte à la mémoire du père fondateur de la démocratie sud-africaine. L'ancien ministre des Finances Pravin Gordhan s'est joint lui aussi aux nombreuses autres personnalités du Congrès national africain, l'ANC, pour réclamer le départ du chef de l'État. Selon lui, le président Zuma devrait s'effacer de la scène politique et laisser quelqu'un d'autre diriger le pays afin de répondre aux aspirations de Mandela pour l'Afrique du Sud. L'ANC au pouvoir depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994 est confrontée à une érosion historique de son électorat, fatiguée des scandales dans lesquels est empêtré le président Zuma, de même qu'une économie en berne. Il y a un an, le parti a perdu le contrôle de plusieurs grandes villes, dont Johannesburg et Pretoria. Plusieurs partis d'opposition ont déposé au Parlement une nouvelle motion de défiance contre le président Zuma. Elle sera débattue le 8 août, mais ne devrait pas passer, l'ANC disposant d'une confortable majorité qui a bloqué les précédentes tentatives.
Pour terminer, les États-Unis ont primé de nouvelles sanctions contre l'Iran pour son programme de missiles balistiques, mais la Maison-Blanche a aussi décidé de préserver l'accord international de 2015 sur le programme nucléaire iranien. Plus de détails sur les nouvelles sanctions avec Eric Manirakiza.
Il s'agit de sanctions juridiques et financières. Le département d'État et le Trésor ont ciblé 18 personnes et entités iraniennes liées aux missiles balistiques et au corps des gardiens de la révolution, armée d'élite de la puissance chiite. Les États-Unis estiment que les activités de l'Iran au Moyen-Orient sapent la stabilité, la sécurité et la prospérité de la région. C'est notamment l'appui au Hezbollah, au président syrien Bachar al-Assad et aux rebelles houthis au Yémen. En représailles, le Parlement iranien a entamé une procédure pour voter une loi de renforcement du programme balistique en vue, dit-il, de lutter contre les actions terroristes et l'aventurisme de Washington. En revanche, le président Donald Trump s'est pour l'instant bien gardé de sortir de l'accord historique en matière de non-prolifération nucléaire signé avec Téhéran. Le secrétaire d'État Rex Tillerson a certifié auprès du Congrès que l'Iran respectait les termes de cet accord que le candidat Trump avait promis de déchirer durant sa campagne.
Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.